Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonjour à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Rav Lemel, bonsoir et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Lemel, nous poursuivons notre étude comme chaque semaine et donc on arrive là à Parashat Terouma et qui parle notamment du Mishkan. Le Mishkan, c'est le tabernacle, c'est-à-dire c'était une espèce, vous allez nous expliquer mieux que moi, mais bon, c'est ce qui a précédé le temple, et Dieu dit aux Juifs, vous allez faire un tabernacle parmi vous. Et les Chachamim ont noté une forme de problème grammatical que vous allez nous expliquer tout de suite, parce qu'on passe du singulier au pluriel, et donc on veut dire à vous, on parle à nous. Et quand on parle à nous, qu'est-ce qui est au cœur de nous? On vu les Chachamim que vous allez nous expliquer, on parle de la famille. La famille est un tabernacle. Alors on vous écoute avec beaucoup de concentration.
Alors c'est vrai qu'on a ici donc cette paracha dans laquelle le clan d'Israël, le peuple d'Israël va être sollicité pour pouvoir participer à la construction de ce fameux Mishkan, de ce sanctuaire qui va être, comme vous l'avez dit très bien, préfigurer le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem. Et le terme, en effet, que le verset utilise est le suivant, « Vasuli mikdash veshachanti betocham ». Dieu dit, vous ferez pour moi mikdash, un lieu saint, un lieu de résidence. Enfin, on va voir qu'il y a beaucoup de traductions possibles. « Veshachanti » et « je résiderai betocham » parmi eux, parmi vous. On est ici donc à un pluriel. Donc évidemment, on sait très bien qu'il n'y a pas de lieu de résidence pour Dieu. « Melo kolaretz kvodo », celui qui remplit l'univers de sa gloire. Il est, comme on dit, même à l'école almim, on savait volamim. Il est à la fois celui qui est à l'intérieur de l'univers et à l'extérieur de celui-ci, quelque chose qu'on ne peut pas vraiment nous appréhender du tout, d'une quelconque manière. Et puis, il n'y a pas de lieu spécifique pour la rencontre avec Dieu, puisqu'il y a marqué Bochlamakom, Asheraz, Kiret, Shemi, Avoelech, Overartira, que dans tous les lieux dans lesquels on rappellera le nom de Dieu, il sera là, il nous bénira. Donc, évidemment, le Mishkan. Au niveau du concept, c'est le lieu dans lequel il va y avoir une forme de connexion particulière avec le divin, mais ce n'est pas le lieu de résidence comme on voudrait l'imaginer. Ce qui est sûr, c'est que le betocham parmi eux, alors il y a une première explication qui est belev kol echad v'echad, dans le cœur de chacun d'entre nous. Et ça, c'est vrai que c'est fondamental de faire bilvavi mifkan evne, à l'intérieur de son propre cœur, créer un sanctuaire, c'est-à-dire créer à l'intérieur de soi la possibilité d'être dans ce contact avec le divin. Mais il y a aussi cette autre lecture sur laquelle je voudrais m'arrêter, c'est que le Mikdash Me'at, ce que l'on appelle le petit sanctuaire, eh bien c'est la maison juive. Alors bien sûr, il y a quelque chose ici de très poétique, on va dire, mais si on a envie de s'inscrire dans quelque chose de plus concret, ça voudrait dire que si on examine un tout petit peu le Mishkan, le sanctuaire, le Beth Amikdash, par la suite le temple, eh bien, on pourrait peut-être trouver un certain nombre d'éléments qui nous permettent de mieux comprendre comment est-ce qu'on construit justement notre famille et qu'elle devienne aussi un petit sanctuaire. Tout d'abord, rappelons-nous que le Mishkan, c'est un lieu qui est un cadre dans la première dimension, c'est-à-dire il y a en effet des mechitzot, il y a un certain nombre de barrières, d'éléments qui sont là et qui font qu'il y a une différence entre l'extérieur et l'intérieur. Et je crois que c'est déjà la première chose, c'est-à-dire cette dimension de savoir qu'il y a la famille et qu'il y a le monde extérieur, et qu'on ne peut pas pénétrer n'importe comment dans l'univers de la famille, et je pense que c'est une réflexion à avoir sur la perméabilité que l'on crée dans une famille entre le monde extérieur et le monde intérieur. Le monde extérieur, nous allons le rencontrer, et est-ce qu'il est vraiment nécessaire de le faire pénétrer en permanence chez nous? Et même si ça risque de faire sauter en l'air certaines personnes, mais le monde extérieur, ce sont aussi tous les médias, et parfois ils sont tellement présents à l'intérieur qu'on a l'impression qu'en étant à l'intérieur, on est en permanence à l'extérieur. Et peut-être que c'est ça déjà la première chose à se rappeler, c'est que la famille, c'est le lieu dans lequel on se retrouve, on se rencontre, et qu'on n'a pas besoin de refaire pénétrer à l'intérieur de ce cadre-là le monde extérieur qui, de toute façon, sera rencontré lorsque nous irons dans notre quotidien. Et puis après, Rappelons que pour pénétrer le Mishkan, eh bien, il fallait d'abord passer par l'étape du Kior. Le Kior, c'est ce bassin en cuivre. Et cette explication, je l'ai déjà proposée sur votre antenne. En effet, on va redire quelque chose qui a déjà été dit, mais ça ne fait pas de mal parfois de faire des petites révisions. Il y avait ce fameux Kior. Ce Kior, c'est ce bassin en cuivre qui était fait avec les miroirs que les femmes juives ont offerts. Et Moïse, au début, on se rappelle, ne voulait pas accepter ces miroirs parce qu'il se disait, mais est-ce que les miroirs des femmes en cuivre poli ont-elles leur place dans le sanctuaire? Et Dieu lui a dit, si, si, c'est au contraire ça que je veux. Parce qu'avec ces miroirs, ces femmes s'étaient faites belles en Égypte et avaient réussi à garder le lien avec leurs époux qui étaient un petit peu déprimés, on va dire, qui ne voulaient même plus se projeter dans une idée de couple et surtout dans une idée d'avoir une descendance, parce que se disant « ça sert à rien ». Nous sommes dans ce qu'on appelle un vrai univers concentrationnaire, ça c'était vraiment un univers concentrationnaire dans lequel il y avait vraiment ce désir de les faire souffrir. Et les femmes juives, eh bien, ont compris qu'elles devaient tout faire pour que ce lien reste et pour qu'il y ait un futur. Et au fond, Dieu dit, bien, c'est ce que je veux à l'entrée du sanctuaire, parce que le Kior, c'est le passage entre le monde du profane et le monde du sacré. À l'extérieur du sanctuaire, eh bien, c'est le monde du profane. Dans le sanctuaire, c'est le monde du sacré. Et Dieu dit, voilà, eh bien, ce point de passage, il est symbolisé par ces miroirs dans lesquels les femmes se faisaient belles pour entretenir le lien du couple. Et comme elles se faisaient belles, mais elles savaient dans quelle direction, comme elles savaient pourquoi elles le faisaient, en deux mots, c'était porteur de sens. Eh bien, c'est ça, au fond, l'univers du sacré. Le passage du profane au sacré, c'est lorsque vous êtes capable de donner du sens à l'acte que vous êtes en train de faire et que vous savez pourquoi vous le faites. Et il y a donc cette première dimension dans la famille, c'est-à-dire de donner du sens à ce que l'on fait. On ne fait pas les choses juste parce qu'il faut les faire, mais parce qu'on a envie de construire. Et à partir de cela, on s'interroge sur le sens des actes que l'on fait, sur le sens de ce que, justement, on ne devrait pas faire, pour permettre à cette famille de s'épanouir et de se développer. Ça va être déjà le premier point. Évidemment, vous comprenez bien que c'est une notion à développer beaucoup plus longuement dans tous les domaines, mais c'est juste, voilà, un petit point de réflexion. Et puis après, on rentrait à l'intérieur, et quand on se retrouvait à l'intérieur, eh bien, il y avait ce fameux misbéar. Le misbéar, c'est le lieu sur lequel on amenait des offrandes. Alors, cette idée d'offrande, évidemment, c'est une réflexion beaucoup plus vaste, mais qui nous renvoie à l'idée que tout d'abord, chaque élément dans l'univers a sa fonction. Et une des fonctions de l'animal, c'est à un moment, en effet, d'être consommé de la même manière que pour un légume aussi, et qu'il remplisse une fonction. Et je vous rappelle que quand vous faites une bénédiction, eh bien, vous êtes donné la possibilité à cette chose de pouvoir remplir son but, qui est quoi ? Il y a à la fois de nous nourrir matériellement, mais aussi de nous nourrir spirituellement, parce que lorsque l'on fait une bénédiction, eh bien, cette bénédiction, c'est ce qui nous permet d'avoir de la reconnaissance vis-à-vis du Créateur et donc de développer le lien. Et le support, ça a été justement cet objet, cette nourriture. Le Corban, c'est donc déjà nous rappeler que chaque élément dans le monde a une fonction à remplir, et se poser la question dans la famille sur la fonction qui doit être la nôtre. Est-ce que l'on fait ce qui est nécessaire pour la remplir? Et je parle ici, évidemment, d'abord au niveau du couple, c'est-à-dire que la fonction de chacun des conjoints, même si ça peut sembler réducteur, c'est d'abord de donner à celle et à ceux qui sont autour de lui les moyens de se sentir bien, de s'épanouir. Évidemment, par la suite, au niveau des parents, de se rappeler qu'ils sont là pour donner à leurs enfants ce qui est nécessaire pour les épanouir. Et ce qui les épanouit, rappelons-nous, c'est aussi les cadres qu'on leur pose, qui leur permettent en effet de se construire, et puis de transmettre aussi à leurs enfants que chacun, chacune d'entre nous dans ce monde a une fonction à remplir, un rôle à assumer. Et aussi, bien sûr, eh bien, le corban, c'est quoi? Le corban, c'est une offrande, et le terme corban vient de la racine karev, qui veut dire se rapprocher, mais lorsque vous offrez, eh bien, vous vous séparez de quelque chose. Et on a ici quelque chose de très paradoxal, c'est que quand j'offre quelque chose, eh bien, je m'en sépare, mais c'est parce que je m'en sépare que justement je peux être proche de l'autre. Parce que lorsque l'on enlève quelque chose de soi, eh bien, c'est là où l'autre a une place pour venir. Et au fond, la fonction du corban, elle est là pour nous rappeler que si on veut construire une famille, si on veut construire un couple, eh bien, si on veut exister pleinement, totalement soi-même, l'autre n'aura jamais vraiment de place. C'est en renonçant à quelque chose, c'est en l'offrant à l'autre. Et ce qu'on offre à l'autre, parfois, c'est justement son renoncement, que l'on arrive à être dans cette dimension de krevout, dans cette dimension de proximité. Évidemment, ça demande un vrai travail, mais c'est quelque chose de fondamental. Et puis, troisième point, et vous comprenez bien que toutes ces notions, on les effleure très très rapidement, et c'est, j'ai envie de dire, un point de départ de réflexion, c'est ce qui était au centre du Mishkan, du sanctuaire. Eh bien, il y a le Saint des Saints, il y a le Aron HaKodesh, l'Arche Sainte. C'est la fameuse Arche Sainte dans laquelle il y a à la fois un Sefer Torah, un livre de la Torah, point de référence du peuple d'Israël, les tables et les tables brisées pour nous rappeler l'expérience du Sinaï, la manne que l'on mange dans le désert, qui est là pour nous rappeler la notion de confiance que l'on doit avoir en Dieu. Et c'est vrai que ne serait-ce que les objets qui sont à l'intérieur sont là pour nous rappeler que pour construire une famille, il faut avoir un point de référence clair qui traverse l'histoire, être capable de se rappeler aussi du point de départ et de réaliser que nous sommes à l'intérieur d'une chaîne et que nous sommes des maillons d'une chaîne et qu'on doit être les maillons forts pour recréer d'autres maillons forts et puis développer cette notion de émouna, de foi et de confiance, que ce soit ces éléments qui soient présents au quotidien dans la maison. Et puis, évidemment, ce Aron HaKodesh, cette arche sainte, rappelons-nous qu'elle n'est pas en or massif. Il y a un bâti en bois et il y a un plaquage d'or à l'intérieur et un plaquage d'or à l'extérieur. Pourquoi ? Pour nous rappeler tout l'enjeu de ce que la Torah nous propose, et plus encore dans la famille, entre l'être et le paraître. Vous savez qu'une des choses sans doute les plus complexes dans l'univers familial, c'est quand l'enfant ou l'autre a l'impression que nous ne sommes pas les mêmes à l'extérieur et à l'intérieur. Lorsque nous sommes à l'extérieur, souvent nous sommes dans des représentations de nous-mêmes, nous sommes tous sourires, nous sommes à l'écoute, bienveillants. Et puis parfois, lorsque les portes de la maison se referment, eh bien, c'est là où une personnalité différente se révèle. Eh bien, au cœur, au plus profond de la famille, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, eh bien, c'est justement là où on doit se rappeler qu'il faut qu'il y ait une correspondance entre ce que nous sommes dans notre monde intérieur, c'est-à-dire dans cette réalité du quotidien à l'intérieur de la famille, et dans ce que nous sommes à l'extérieur. Ce n'est pas simple, ce sont des choses qui se construisent, ce sont des choses qui se développent, et c'est peut-être cela aussi que l'on nous demande de penser lorsque l'on va se confronter justement à cette paracha. Et comme vous le voyez, évidemment, il y a d'autres ustensiles qui sont aussi passionnants et qui nous permettent de comprendre d'autres dimensions dans la construction d'une famille. On a juste ouvert ici à quelques petits points qui sont des points de départ de réflexion, à nous de savoir les développer de manière ultra concrète pour en effet faire de nos familles Mikdash Meat des petits sanctuaires.
Et on va y penser ce soir, grâce à vous, Rav Lemel, en faisant Shalom Aleichem. On va faire venir les anges, j'adore cette tradition, faire venir les anges sur notre tabernacle, notre table, notre famille, et ils vont venir nous accompagner pendant Shabbat. Et nous avons tous un maître, vous, moi, d'autres, qui s'appelle Rav Citruc. Il avait raconté quelque chose de très beau, il avait dit qu'il y a un très grand Rav qui s'appelle Rava Orbar, et il se rhabillait, il se réagistait, il se faisait beau pour rentrer chez lui. Et il disait, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette vidéo, il disait, hein messieurs, nous on se fait beau quand on sort. Et ben lui, il se faisait beau parce que le plus important, c'était qu'il fallait être beau quand il se présentait à sa femme, à sa famille. Donc j'ai pensé à ça en vous écoutant. Ça vous inspire quelque chose, Rav Lemel ?
Complètement. Rav Lemel Orbar, qui était le Rosh Yeshiva de Kol Torah, j'ai eu le privilège d'étudier un petit peu. Eh bien, lorsque malheureusement son épouse est partie de ce monde, il a dit « Je n'ai pas besoin de te demander pardon pour quoi que ce soit, et toi non plus, tu n'aurais pas eu besoin de me demander pardon, car leur vie n'a été qu'une vie d'harmonie, et c'était vrai.
Wow. »
C'est quelque chose d'ultra rare, mais ça reste dans le domaine du possible.
Quand elle est partie, Rav Rosenberg nous a dit, depuis le départ, donc sa femme le quitte, s'en part dans l'autre monde, tous les vendredis soirs, c'est Rav Rosenberg qui nous a raconté ça, qui était d'ailleurs un de ses élèves, il a dit, tous les soirs, il lisait Maseret Kedushim en entier.
En effet.
Il faut le faire. Hein. Tous les jours, il ne rentrait pas à la maison tant que ce n'était pas fini. Rav Lemel, merci à vous et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent à Jérusalem avec Rav Mordechai Bitton. Rav Mordechai, bonsoir et Shabbat Shalom à Jérusalem. Alors, Vous voulez ce soir vous réfléchir sur le Aaron. Le Aaron, c'est, on dit le placard, mais enfin bon, c'est l'endroit où étaient placées les tables. Et on vient de le dire, au-dessus se trouvaient deux chérubins, deux petits anges. Et vous voulez nous expliquer le lien mystérieux qu'il y a entre ces anges, le mois de Hadar dans lequel on vient de rentrer, mois de la joie, et le mois de Av, qui est celui de la destruction du temple. On vous écoute.
Oui, mon cher Bernard, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Chodesh Tov, Mourar. On va souhaiter un mois de Hadar qu'on espère plein de bonnes nouvelles. Nous avons Hachem, la chute de nos ennemis, de la même manière qu'à Purim, nous avons assisté à la chute de nos ennemis, que nous assistions à la chute de nos ennemis et à la rédemption finale pour laquelle nous prions trois fois par jour. Alors justement, on va s'intéresser ici au Mishkan, au tabernacle, puisque la paracha, la section hebdomadaire, nous raconte l'ordre donné par Dieu à Moshe et au peuple juif de construire le tabernacle, le Mishkan. Dans le Mishkan, dans le tabernacle, il y avait un élément central qui était le Aaron, cette caisse dans laquelle se trouvaient les tables de la loi, qui était surmontée d'un caporet, c'est-à-dire d'un couvercle sur lequel il y avait des kérouvim, sur lequel il y avait des anges, des figures d'anges. Alors c'est très intéressant parce que le Rambam Maïmonide, dans le Moré Nevouchim, dans le Guide des Grecs, dit que c'est très bizarre que dans le lieu du monothéisme absolu, on ait mis des statues, alors que la Torah interdit de mettre des statues, interdit de mettre des images. En fait, il explique que les anges, c'était un dévoilement. Les anges sont un dévoilement. Qu'est-ce que c'est un ange, finalement, dans la Torah ? C'est un dévoilement du projet divin. Les anges ont des ailes. C'est quoi les ailes ? En fait, c'est une figure de style pour nous dire que ce projet qu'Hachem nous dévoile, il va se dévoiler encore plus. Plus les anges ont des ailes, plus le dévoilement est grand. Et en fait, ce que les kérouvim, les chérubins, ces figures d'anges vont exprimer, c'est le dévoilement de la relation entre Hachem et le peuple juif. Et d'ailleurs, l'Agmara, dans Baba Batra, page 99, dit la chose suivante. Comment est-ce que ces anges se tenaient sur le propitiatoire, sur le caporet ? Rabbi Yochanan et Rabbi Eleazar, deux maîtres, étaient en discussion. Un disait qu'ils étaient l'un face à l'autre. L'autre dit qu'en fait, ils se tournaient le visage, en quelque sorte. Ils regardaient dans des directions différentes. Et la Gemara dans Yoma, la page 54, rapporte qu'au nom de Resh Lakish, un des grands maîtres donc, de la Gemara, qu'au moment où les Romains sont rentrés dans le temple, où ils ont détruit le temple, ils ont trouvé les chérubins enlacés l'un dans l'autre, enlacés, littéralement enlacés. Alors qu'est-ce qu'on vient de nous dire ici ? On vient de nous dire ici un très grand secret que les antisémites ne comprennent pas, mais qui est fondamental, c'est qu'en fait la relation avec Hachem est une relation qui ne se détruit jamais, qui ne faiblit jamais. En toutes circonstances, Hachem est avec nous. Cette semaine, on a assisté à un événement bouleversant, qui est donc l'enterrement de Shiri Bibas et de ses deux fils. Il faut le dire ici, on est là au démo, on est dans l'immonde, dans leur monde, hors monde. On est dans une barbarie qui ne connaît aucune limite. Et surtout, on a affaire à des gens qui ici ne respectent même pas leurs propres règles. Finalement, ils ont pris des otages. Pourquoi ? Pour récupérer des terroristes, mais ils tuent les propres usages. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à négocier avec ces gens-là. On est ici hors monde, hors cadre, on a affaire à la barbarie absolue. Ça continue d'ailleurs là cette semaine au bon Jean-Rogis, puisqu'on rentre des corps d'otages qui ont été assassinés en captivité. Donc on a compris qu'on a affaire à des barbares, mais c'est le moment de rappeler ici un des grands fondements de la fête de Pourri, mais un des grands fondements de la foi juive. Hachem ne lâche jamais son peuple. Dans le moment où le temple a été détruit, on trouve effectivement que les anges s'étreignaient. Et donc c'est très surprenant, on serait imaginé à ce qu'ils se tournent complètement le dos pour exprimer la colère d'Hachem au moment où le temple est détruit, et non pas du tout. Alors pour le comprendre, il faut comprendre qu'il y a un rapport qui est établi dans la halakha elle-même, dans la loi, entre le mois de Hadar et le mois de Av. Il nous est dit la chose suivante, à partir du moment où commence le mois de Hadar, on multiplie, on va se montrer de plus en plus joyeux, on multiplie les occasions de joie. Par contre, au moment où rentre le mois de Av, qui est le mois de la destruction du Beth Amikdash, du Temple, là, par contre, on réduit les occasions de Simcha. Pourquoi mettre en rapport ces deux mois, un mois de joie absolument extraordinaire et un mois de tristesse absolue, une tristesse qui continue encore jusqu'à aujourd'hui. Quel est le rapport qu'il y a entre les deux? Eh bien, le rapport, il est le suivant. Le rapport, c'est la simcha. La simcha, c'est-à-dire que dans le mois de Av, il est interdit d'être complètement malheureux. Simplement, on réduit la simcha. Par contre, dans le mois de Adar, le mois de Purim, là, on va complètement développer, on va complètement multiplier les organisations de simcha. Mais on reste dans une certaine simcha. Pourquoi? Parce que le lien avec Dieu ne se défait jamais. Effectivement, au moment où, par exemple, les Bnei Israël, les Juifs vont participer au festin de Assuérus, eh bien, il va s'en suivre directement après la mort de Vashti et la possibilité pour Esther de venir reine. Mais à ce moment-là, personne n'avait fait teshuva sur sa participation à ce festin auquel Mordechai avait dit de ne pas participer, puisque la Megillat Esther souffre sur la participation des Juifs à un festin qui commémore la destruction du Beth Amikdash. Et le fait que les Bnei Israël, d'après le conte fait par Achashverosh, ne seraient jamais délivrés. Et donc, on se serait attendu à ce que ce moment-là, il n'y ait aucun signe de bienveillance divine à l'égard du peuple juif. Non. À la suite de ce festin où finalement Vashti ne veut pas se présenter, elle va être tuée et Esther va être élue reine et elle devient reine. C'est comme si en quelque sorte, avant même quelques années avant la délivrance finale du peuple juif, Dieu avait préparé cette délivrance. Mais mieux que cela, il montre à l'intérieur même du malheur, à l'intérieur même de la faute, qu'il n'abandonne pas le peuple juif, qu'il reste en lien avec le peuple juif. Et là, on peut comprendre le rapport entre le mois de Hadar, le mois de Pourib, le mois de la joie, et le mois de Av, le mois de la destruction du Beth Amikdash, le mois du deuil. C'est qu'en fait, Hachem ne nous lâche jamais. Et ça, c'est fondamental de le dire dans cette période. Là, maintenant, on est en train de vivre un drame planétaire avec les échanges des terroristes contre des civils et des soldats qui ont été assassinés en captivité par des tortionnaires nazis islamistes. Et on est d'une certaine manière un petit peu dans la peine. Et en même temps, on se demande ce qu'on doit faire. Alors, ce qu'on doit faire, ce n'est pas le moment d'en discuter ici. Mais une chose est sûre, Hachem ne nous a pas lâchés. Même le 7 octobre, Hachem ne nous a pas lâchés. Les gens me demandent où était Hachem le 7 octobre. Moi, je réponds toujours, il était là, vous l'avez jeté. Alors, j'en dis, vous êtes dur. Il y a des gens qui ont été sauvés. Je dis, alors, il était là dans ce cas-là. Alors, donc, il était là ou il n'était pas là? Je ne comprends pas. Il était là, bien sûr qu'il était là. Il était là à Auschwitz, il était là le 7 octobre, il est là tout au long de l'histoire du peuple juif. Mais c'est à nous, et c'est ça la question qui est posée ici. Face à un malheur, le juif a une alternative, il est face à une alternative. Soit il décide d'aller vers Tisha B'Av, c'est-à-dire de créer son propre Tisha B'Av, et donc de s'entretenir dans son malheur, de s'entretenir dans son désespoir, ou alors au contraire, il décide d'aller vers Pourim. Et la manière de choisir, la meilleure manière de choisir d'aller vers Pourim, c'est simplement de regarder les chérubins. Les chérubins dont on parle ici dans la paracha, qui étaient par-dessus le Aaron, par-dessus donc l'armoire, la caisse où étaient les tables de la loi. Ils s'enlaçaient au moment du malheur. Hachem ne nous lâche jamais. Mais nous, où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on le suit? On est avec lui? Est-ce qu'on est avec sa Torah, qu'il nous a donnée? C'est ça la question qui est posée. Et donc face au malheur, on peut s'abandonner au désespoir et penser qu'on vit dans une histoire de souffrance sans fin, ou alors au contraire qu'on est au cœur d'un projet historique et spirituel qui a démarré avec, pour le peuple juif avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui s'est poursuivi avec l'esclavage égyptien, et ensuite après on a reçu la Torah, et qui continue maintenant vers un terme messianique dont parlent tous nos sages, tout le temps dans ce confondu. On a le choix, ou le désespoir, ou la construction. Et au fond, c'était un peu ce que disait le rabbi de Poniovitch, qui avait perdu sa femme et ses 11 enfants dans la Shoah. On lui posait la question, mais comment vous avez la force de construire une yeshiva? Il dit, mais je pourrais me laisser aller au désespoir, je pourrais me laisser m'abandonner au désespoir. Mais je comprends que la survie du peuple juif, et en fait la raison pour laquelle je suis resté en vie, c'est pour témoigner du fait qu'Hachem ne nous a pas lâchés, que nous ne lâcherons pas Hachem. Voilà, Shabbat Shalom.
Mordechai Bitton, merci, et Shabbat Shalom. Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gay et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Gay, alors vous voulez revenir, vous, sur la symbolique des ustensiles qui entourent le Mishkan, le tabernacle. Évidemment que chacun a un rôle, mais il y a aussi une symbolique, et c'est sur ce sujet que vous voulez nous inviter à réfléchir ce soir.
Oui, tout à fait. La paracha de Trouba est une paracha plutôt technique. On parle d'une descriptive très précise de la forme, des différents ustensiles qu'il y avait dans le tabernacle et aussi de l'ossature même du tabernacle du Mishkan. Et on peut se demander quel est l'intérêt pour nous aujourd'hui de connaître exactement quelle dimension faisait chaque ustensile. Alors là, je ne vais pas pouvoir, dans ce cadre-là, rentrer dans tous les détails, mais juste rappeler ce que dit le Malbim, un commentaire que j'invite toute la communauté à étudier avec beaucoup d'approfondissement. Il appelle ça « remaser un Mishkan », les illusions du tabernacle. Donc le Malbim nous dit l'explication suivante, commençant par le Aaron, le Shulchan et la Menorah. On va commencer par ces trois ustensiles. Il commence par dire que déjà, c'est calqué sur le corps humain. La tête, c'est le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Il y a un rideau qui sépare le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, du Kodesh, la partie sainte, mais non pas le Saint des Saints, qui est composé de trois ustensiles, dans lequel se trouvent trois ustensiles. Il y a la table, le Shulchan, il y a la menorah, le candélabre, avec les sept branches, et il y a le Mizbeach Hazav, l'autel en or. Alors, l'autel en or, justement, dans la paracha de cette semaine, on n'en parle pas, on en parlera plutôt peut-être la semaine prochaine, en paracha Tetzaveh. Mais par contre, il y a trois ustensiles, le Aaron, l'arche sainte, qui est un couvercle sur lequel il y a deux chérubins qui se font face, et dans lequel, dans cette arche sainte, on met les deux tables de la loi. Alors, ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'il y a trois caisses. C'est très spécial. L'arche sainte est composée de trois caisses, l'une à l'intérieur de l'autre. C'est du bois plaqué or. Et donc, le sens de ces trois caisses pour y mettre finalement les tables de la loi peuvent poser question. Alors, selon le Malbim, les trois caisses rappellent que le cerveau humain, il est dans le crâne. Il y a trois membranes, trois éléments qui séparent le cerveau de l'extérieur. D'accord, il y a la boîte crânienne, il y a la dure mère, et la... Donc encore une autre membrane dont j'ai oublié le nom, mais peu importe. Il y a donc trois membranes qui séparent, donc qui protègent le cerveau. Et en fait, ces trois caisses qui symbolisent donc le crâne humain, nous rappelle que dans notre cerveau, dans notre tête, il faudrait qu'on mette les louchot, c'est-à-dire qu'on mette les principes de la Torah, soient bien ancrés en nous. Et ça, c'est le Kodesh HaKodashim, avec évidemment sur le haut les chérubins. Alors pourquoi les chérubins? Pourquoi il y en a deux et qu'est-ce qu'ils représentent? Il y a beaucoup de symbolique. La première, je me permets de faire une petite aparté pour la communauté, c'est que c'est un petit message pour nous. Cette semaine, nous avons enterré deux enfants et quelqu'un a fait remarquer qu'effectivement, Dieu nous a parlé, par Dieu apparaissait entre les chérubins. C'est un peu comme si Dieu nous faisait un message cette semaine entre les deux chérubins, ces deux enfants, Phir et Ariel. Deux enfants d'une pureté, évidemment, qui nous a tous touchés et dont le sort de cette famille nous a énormément, on va dire, peinés. Mais on a tous compris que c'est un message pour nous tous, c'est pas un message à la famille Viva, c'est un message à tout le peuple juif. Et nous espérons vraiment que Dieu nous parlera, on va dire, d'une façon plus, on va dire, sympathique et souriante que la façon dont il nous a parlé cette semaine. Là, c'est juste une petite aparté. Alors, le Malbim nous dit que les deux chérubins, l'un est posé, en fait, sur la moitié des louchot, on appelle ça les deux louchot, les deux tables de la loi. Je vous rappelle qu'il y a cinq paroles sur une des tables et cinq paroles en face sur les autres tables. Sur une première partie, il y a ce qu'on appelle les lois qui gèrent les relations entre un homme et son créateur, ce qu'on appelle Ben Adam Lamakom. Et les cinq autres, c'est Ben Adam Lachavero, c'est un homme, entre un homme et son prochain. Et les deux chérubins, l'un est sur justement les cinq premières et l'autre est sur les cinq dernières. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils symbolisent, ces deux chérubins, le Kohen Gadol et le roi. Le roi et le Kohen Gadol. Le roi, son rôle, c'est de faire respecter, de faire en sorte que la société soit bien organisée. Donc le roi doit châtier et écarter des personnes dangereuses pour la société. Il doit organiser la vie de la société, c'est un peu la force du politique, la force donc du gouvernement, donc celui qui dirige, le leader, et qui gère un peu les affaires de l'État. Et puis il y a L'autre côté, c'est le Kohen Gadol, le grand prêtre, dont le rôle est de gérer la relation, on appellera ça la relation verticale, donc avec Hachem, Ben Adam Lamakom. Il est celui qui organise le service divin dans le Bet Amidash, mais pas que, l'enseignement de la Torah à travers le Sanhedrin, etc. Donc les Kohanim et les Lévim avaient un rôle prédominant dans ce domaine, puisqu'ils étaient dispensés de tout travail d'agriculture et en général, et donc ils s'adonnaient à l'étude et à l'enseignement. Et également donc le service divin au Beth Amikdash, au Mishkan, au Tabernacle. Donc on a ici deux chérubins qui doivent se faire face, c'est-à-dire qu'ils doivent être travailler ensemble, travailler dans le même sens. Et effectivement, ça c'est donc une sorte de symbolique sur la vie gérée autour de la Torah, mais organisée par deux leaders, parce qu'il y a toujours eu deux leaders, le grand prêtre et le roi, pour créer une société apaisée, et qui se fonde sur les valeurs de la Torah. Et ça nous rappelle aussi que chacun d'entre nous, nous devons avoir, comme les chérubins, les ailes qui vont vers le haut. Alors les ailes qui vont vers le haut, c'est évidemment un symbole aussi. Ils doivent agir les Shem Shamaim, d'une façon désintéressée. Ils doivent mettre de côté leur intérêt personnel au profit de l'intérêt, évidemment d'abord, que les intérêts, que le projet divin puisse se réaliser, que les hommes puissent avoir les meilleures solutions et qu'ils mettent de côté leurs égos, leur envie personnelle, leur désir de pouvoir, etc. Tout ça, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, mais c'est cela que symbolisent les ailes qui vont vers le haut. Puis en dessous, donc, il y a ces trois caisses avec le Aaron HaKodesh, donc c'est un symbole de Torah. Et on retrouve les badim, c'est-à-dire des barres pour soutenir, pour porter ce Aaron, cette arche sainte. Et il dit que les badim, les fameuses barres qui ne devaient jamais quitter l'arche sainte, symbolisent la Torah orale. Ce qui est à l'intérieur, donc les Aaron, les louchot, pardon, c'est la Torah écrite, alors que les deux barres, c'est la Torah orale qui nous permet de porter, c'est-à-dire de faire en sorte que le parole divine puisse s'adapter et être pérennisée pendant toutes les générations, et c'est le rôle des sages, ce qu'on appelle la Torah orale, de savoir mettre les barrières où il faut, de savoir adapter ce qu'on appelle Chaye Olam Nata Betochenu, donc une vie éternelle, la capacité de faire en sorte que la Torah puisse être bien vécue dans toutes les générations, avec évidemment les difficultés que nous rencontrons, trouver les solutions en respectant les lois de la Torah et des fois en mettant des barrières pour que nous soyons protégés et nous ne transgressions pas la volonté divine. Donc ça c'est les deux barres, il y a aussi quatre tabaot, quatre anneaux dans lesquels on mettait les barres et qui étaient là justement pour nous symboliser quatre choses. Et en fait ce sont les deux oreilles et les deux yeux qui nous permettent de comprendre et de voir, comprendre ce que nos sages nous enseignent, transmettre avec la bouche, ça c'est autre chose, mais comprendre, c'est-à-dire voir, c'est voir le texte de la Torah, analyser aujourd'hui aussi le texte de la Gemara, de la Mishnah, tout ce qui concerne la Torah orale, le Zohar, etc. Et également donc voir et écouter pour pouvoir donc porter ce Aaron à bon port, c'est-à-dire l'amener jusqu'à la fin des temps, que cette Torah nous protège et nous accompagne. Effectivement, dans l'autre côté du rideau, donc il y avait trois ustensiles, aujourd'hui on va en parler que de deux, le Shulchan et la Menorah, qui correspondent, selon le Malbim, aux poumons et au cœur. Alors le Shulchan, la table, il y avait 12 pains, donc ça rappelle évidemment la vie terrestre, et c'est un symbole de la malchut, de la royauté, de la hachirut, de la richesse. Je vous rappelle qu'il y avait sur ces deux ustensiles, je parle maintenant du Aaron HaKodesh, une couronne, c'était une décoration sous la forme d'une couronne, et également sur le Shulchan une couronne, pour nous rappeler qu'il y a ce qu'on appelle Keter Torah, la couronne de la Torah et Keter Malchut, la couronne de la royauté. Et il y a donc 6 pains d'un côté et 6 pains de l'autre, et c'est tout simplement pour nous rappeler que Hachem nous donne la beracha, la bénédiction, à travers justement ce shulchan, cette table qui est juste en face de la menorah. La menorah, c'est évidemment la Torah orale et aussi, d'une façon générale, la Torah. Lui, il appelle ça la bina, alors que le Aaron, c'est la Chochma. Bina, c'est la compréhension et la déduction, l'investissement personnel qui nous permet de déduire une chose d'une autre et qui fait face donc justement au Shulchan. Le Shulchan, donc, c'est la Parnassa, c'est la vie terrestre, mais c'est également quelque chose qui se vit à la lumière de la menorah, juste en face de la menorah. Et d'ailleurs, nous allons le faire ce soir, lorsque nous allumerons les bougies de Shabbat et que nous aurons des chalot. On sait tous que sur les chalot, on badigeonne quelque chose sur les chalot avec donc du blanc d'œuf ou du jaune d'œuf sur les chalot pour pouvoir en faire en sorte que les lumières des bougies de Shabbat se reflètent sur les chalot comme le shochan qui était la table qui était en face de la menorah, donc ces 12 pains qui étaient mangés par les kohanim chaque Shabbat est resté frais comme s'il venait à peine d'être cuit alors que ça faisait 7 jours qu'ils étaient sur la table. Donc on a Shulchan et Menorah qui correspondent donc au cœur. Le cœur, c'est le Shulchan, la table, parce que le cœur donc fait en sorte que le sang nous parvienne dans toutes les parties de notre corps. Le sang, c'est ce qui nous nourrit, ce qui nourrit notre corps, ce qui nous donne la vitalité. Et de l'autre côté, la Menorah correspond au poumon, c'est la respiration, notre capacité à nous donc de respirer et d'être ce que nous sommes. Il y a également différentes autres symboliques, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que effectivement les symboliques sont très très nombreuses, mais c'est surtout pour vous inviter tout le Kahal à faire comme moi et à étudier ce Shabbat, le Malbim avec ses Renazim. C'est extrêmement riche et plein de détails magnifiques encore, que évidemment je n'ai simplement que dit que certains. Je rappelle que nous sommes au niveau de la poitrine, donc l'ensemble cœur et poumon, mais il y a aussi l'estomac et l'intestin. Et là, nous avons dans le Beit HaMikdash le Mizbeach, l'autel sur lequel on brûlait les sacrifices, et qui rappelle également donc cet ensemble estomac-intestin, où on brûle, en fait, on détruit les aliments que nous ingurgitons, que nous mangeons, et qui se distribuent dans le corps. Ainsi, sur les sacrifices, se brûle sur l'autel. Donc tout ça pour nous montrer qu'il y a une véritable symétrie entre le Mishkan, qui est le microcosme du monde parfait, mais qui représente aussi l'homme parfait, l'homme qui a la Torah, le Aaron dans sa tête, qui respire la Torah, qui vit la Torah, et qui vit aussi une vie matérielle. Mais cette vie matérielle, elle est inspirée par la spiritualité et non pas l'inverse. Et c'est donc pour cela que je voulais ici partager avec vous ces quelques symboliques pour nous montrer l'intérêt de tous ces détails. Et si on avait le temps, on aurait pu montrer comment chaque détail représente quelque chose de très profond, et à nous de travailler là-dessus ce Shabbat. Et c'est pour ça que je souhaite à toute la communauté un Shabbat Shalom et de nous inspirer fortement de ces enseignements cachés, allusifs que nous donne le Mishkan, et que nous ayons le mérite très bientôt de revoir le Beit HaMikdash reconstruit. N'oublions pas, le Hamas est toujours en train de mettre en mise en scène de son Jérusalem qu'il veut soi-disant défendre. Alors eux, ils ont leurs idées un peu tordues, mais nous, on doit se rendre compte que Dieu nous envoie aussi un message que nous devrions aussi, mais de notre façon, vouloir la reconstruction du Beit HaMikdash, non pas par les armes et par le feu et par le sang, mais par un travail, une introspection personnelle et une véritable aspiration à ce que nous ayons bientôt la Shekhina, la présence divine qui se réinstalle. Elle est toujours là-bas, mais elle s'installe de façon évidente et visible pour le monde entier à l'endroit où qu'elle n'a jamais quitté, donc l'endroit qui est le mont du Temple. Et nous l'aspirons très 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 bientôt à cette rédemption.
Amen, amen. Et on peut faire venir la Shekhina, je parle sous votre contrôle, par l'harmonie, la concorde qu'il y aura autour de notre table de Shabbat ce soir. On peut retrouver déjà tout cet esprit de sainteté, mais je parle sous votre contrôle, bien sûr.
Bah justement, à la table de Shabbat, je vous ai parlé des pains, vous avez parlé de l'allumage des bougies. Il y a évidemment le rideau derrière lequel il y a la chambre à coucher. Les deux chérubins, c'est monsieur et madame qui se font face. Et donc, il y a aussi le kior, on se lave les mains, un etiklat yadayim. Tout ça, ce sont des symboliques que nous allons vivre ce soir, je l'espère, en famille. Et si tout le peuple juif pouvait revivre ce moment délicieux qu'est le Shabbat, eh bien, je suis sûr que la Géoula, la délivrance, rapprocherait très vite.
Et allumer les bougies, ça amène une ambiance particulière dans la maison, une bracha surtout, et c'est une mitzvah en soi, qui n'est pas liée au fait de ce que vous ferez après. Moi, je vous souhaite de faire totalement Shabbat, mais ne allumez les bougies. Même si vous avez des choix qui sont différents, allumer les bougies, vous changez toute votre maison, dans l'esprit de ce que vient de dire Rav Guy. Rav Guy, je vous remercie et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Yosef Rosenberg pour clore notre émission Kabbalat Shabbat. Rav Yosef, bonsoir.
Bonsoir, Rabbi Bernard.
Il y a 6 ans disparaissait votre père, Rav Rosenberg, Chaim Tzvi Rosenberg. C'était le grand Talmid Chacham en France, vraiment avec un rayonnement exceptionnel. Et vous avez une soirée de Chizouk qui a lieu mercredi. Donc je voulais juste faire un rappel en fin de cette émission, parce que le public est concerné par ce sujet important. Donc c'est mercredi au CEJ à Paris.
Tout à fait, mercredi 5 mars au CEJ. On commencera par la prière d'Arvit à 19h30 et après suivi d'un dîner de Divrei Torah, Chizouk et la promotion de la biographie à paraître prochainement sur mon père Zatzal. Ce sera très intéressant, ça nous a mis 4 ans et demi de l'écrire, de la rédiger, avec des histoires authentiques et vérifiées. Et c'est vraiment très intéressant le résultat.
Magnifique, c'est vrai que c'était un personnage exceptionnel. Je dis personnage parce qu'il y avait quelque chose, il y avait une aura hein, autour de votre père, bien sûr.
Oui, c'est assez spécial.
Ouais, c'est assez spécial. Il faut donc noter cette date de mercredi prochain. Et il y a aussi un site internet,
Avatora.fr.
Avatora.fr, sur lequel on peut soutenir des institutions que vous dirigez, vous, à Jérusalem. Et moi, j'appelle les auditeurs à le faire. On se rend sur ce site, c'est très facile, et faire un don, je sais qu'on a aussi des relevés SERFA, c'est important pour tout le monde, et on soutient les institutions de Rav Rosenberg à Jérusalem, ces institutions où des jeunes Français viennent, apprennent la Torah, trouvent aussi un gîte pour après faire des études générales s'ils le souhaitent, c'est tout un concept, et voilà, je suis content de vous avoir vu en ligne, simplement pour rappeler, on en a parlé déjà hier, mais je voulais rappeler ce moment important, c'est mercredi prochain et le site internet où on peut aider en faisant un don, quelle que soit la taille du don, c'est avatora.fr. Rav Yosef Rosenberg, en fait, l'occasion m'est donnée de vous dire Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, merci à vous.
Voilà, cette émission est à présent terminée, donc je vous souhaite à tous et à toutes Shabbat Shalom. Shalom leboy na boy ma shem lo yishmari shav shokat shoy mai ma shem lo yine bayis shalom leboy na boy ma shem lo yishmari shav shokat shoy mai